Banque Atlantique, grandir ensemble.
Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Juan Gomez, à demain. À chacun son 8 mai en ce jour de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans plusieurs pays, dont la France. L'Algérie, elle, se souvient des massacres de Sétif. La Russie, de son côté, prépare des célébrations demain en présence, entre autres, du président chinois. Deuxième jour de conclave au Vatican, les cardinaux à l'isolement dans la chapelle Sixtine pour élire un nouveau pape. Les fidèles et les curieux scrutent la cheminée d'où sortira la fameuse fumée noire ou blanche. À suivre aussi dans ce journal l'échec des négociations en Nouvelle-Calédonie sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, repart sans accord. Et puis une batterie de mesures en vue de la Tabaski au Sénégal. C'est dans un mois et pour faciliter l'approvisionnement en moutons. Des mesures donc pour lutter aussi contre le fléau du vol de bétail. Oui, c'était le 8 mai 1945 à 23h01, la signature de la capitulation allemande à Berlin, la fin d'une guerre meurtrière. 80 ans donc après cet anniversaire est marqué par des cérémonies aujourd'hui, notamment en Allemagne ou encore en France. Ce sera tout à l'heure à Paris en fin de journée à l'Arc de Triomphe avec le président Macron. Et le 8 mai 1945, c'est aussi les massacres de Sétif en Algérie, la répression des manifestations indépendantistes par l'armée française. Dans un contexte très crispé en ce moment entre Paris et Alger, une délégation parlementaire française a fait le déplacement en Algérie. Aurélien Devernois avec Raphaël Delvolvé.
C'est l'autre 8 mai, celui du début du soulèvement indépendantiste algérien, en parallèle aux célébrations de la victoire des Alliés. L'amorce de deux décennies sanglantes, puis d'une relation difficile, forcément, entre l'Algérie et la France. Relation toujours épidermique aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas laisser péricliter, selon la députée écologiste Sabrina Sebaï, membre de la délégation française.
C'est important, lors de cette date symbolique, d'avoir une délégation française qui soit présente pour montrer aussi qu'en France, il n'y a pas que des ennemis de l'Algérie, comme on a pu le voir ces derniers mois avec tous les débats houleux auxquels on a assisté, et d'envoyer un message aussi de dire qu'il y avait tout un travail de fond qui se faisait sur les questions mémorielles, pour la réconciliation.
Mais pour le patron des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, ce déplacement n'est ni plus ni moins qu'une provocation.
Le jour de 8 mai, qui est un jour de fierté nationale, vous avez des élus français qui vont se rendre en Algérie pour se livrer à une séance d'autoflagellation et d'humiliation.
Entre les faucons et les colombes, nombreux sont les élus français à plaider pour davantage d'équilibre, comme le député MoDem Richard Amos.
Oui, si c'est pour fabriquer la paix, non, si c'est pour encore une fois attiser des plaies qui ne servent à rien.
Mais aujourd'hui, tout est bloqué, admet le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui doit lui-même combattre les partisans d'une ligne dure au sein du gouvernement. L'ère glaciaire entre Paris et Alger n'est donc pas encore prête à s'estomper.
Aurélien Devernois, en Russie, les 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie est célébré le 9 mai, demain, avec un grand défilé. Le président chinois fait partie des invités. Xi Jinping est arrivé au Kremlin. Il a salué tout à l'heure l'approfondissement de la confiance entre les deux pays. Et il dit se tenir, je cite, aux côtés de la Russie face à un harcèlement hégémonique. De nouveaux tirs nocturnes échangés à la frontière entre l'Inde et le Pakistan après une série de frappes indiennes la veille. Selon les derniers bilans, les bombardements ont fait 31 morts côté pakistanais, 13 en Inde. Le Pakistan, là, vient de dire avoir abattu 25 drones fabriqués par Israël, envoyés par l'Inde jusqu'ici. Dans ce contexte, l'aviation civile pakistanaise a annoncé la fermeture des trois principaux aéroports du pays, Islamabad, Karachi et Lahore, jusqu'à 13h, temps universel. Que retenir de la visite du président syrien à Paris? Ahmed al-Sharaa, reçu hier par le président Macron, sans naïveté, a précisé l'Elysée, référence au passé djihadiste du dirigeant. Emmanuel Macron s'est dit favorable à une poursuite de la levée progressive des sanctions économiques européennes qui pèsent sur la Syrie. Et Paris exige aussi la protection de tous les Syriens, Abla Junaidi.
Les honneurs de la République française pour Ahmed al-Sharaa. Emmanuel Macron affirme s'inscrire dans la suite d'un soutien historique de la France à la rébellion syrienne contre Bachar al-Assad, mais pas sans condition.
Monsieur le Président, ces aspirations des Syriennes et des Syriens nous engagent, et elles vous engagent tout particulièrement, et c'est bien cela dont nous avons parlé aujourd'hui, et c'est bien la raison de votre présence pour votre première visite dans un pays occidental.
Le président français a rappelé le sort des minorités alaouites et druzes massacrées par des combattants affiliés aux nouvelles autorités. Ahmed El-Sharah est venu pour assurer que des jalons avaient été posés.
Nous avons agi rapidement pour régler la situation. Nous avons arrêté les hors-la-loi et nous avons mis en place deux commissions. L'une pour enquêter sur les faits et la deuxième pour restaurer la paix civile et établir le lien avec les populations affectées. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est associé à nos efforts. Nous avons ouvert la porte à une commission d'enquête internationale qui a salué notre coopération pleine et entière avec elle.
Reste à juger les coupables, mais pour encourager les efforts déjà faits dans d'autres dossiers intéressant la France, comme la sécurisation de la frontière avec le Liban, la gestion de l'arsenal chimique syrien, Emmanuel Macron s'est engagé ce mercredi à tenter de convaincre ses partenaires européens de poursuivre la levée des sanctions visant la Syrie.
Les yeux rivés sur la cheminée de la chapelle Sixtine au Vatican, où les cardinaux sont réunis en conclave et doivent choisir le nouveau pape. Donc à l'affût d'une fumée noire ou blanche, nos envoyés spéciaux suivent tout ça de très près. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, hein, quelques heures ou quelques jours, pour qu'un non recueille la majorité des deux tiers, soit 89 voix. En Nouvelle-Calédonie, la réunion était aussi qualifiée de conclave. Trois jours de discussion sur l'avenir institutionnel du territoire français, secoué l'an dernier par de graves violences. Mais les négociations entre indépendantistes et non-indépendantistes n'ont pas abouti. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, quitte la Nouvelle-Calédonie sans accord. Charlotte Manvie, et des élections à haut risque vont se tenir dans l'archipel d'ici au mois de novembre.
Qui peut voter aux élections provinciales? C'est cette question qui avait déclenché l'explosion de violence de mai 2024, qui avait fait 14 morts et détruit des centaines d'entreprises. Mais faute d'accord, ces élections qui avaient été repoussées pour laisser une chance au dialogue se tiendront au plus tard au mois de novembre. Voilà des mois que Manuel Valls, qui achevait ce jeudi son troisième séjour en trois mois dans l'archipel, tentait de mettre d'accord indépendantistes et non-indépendantistes. Mais les esprits n'étaient peut-être pas mûrs, a-t-il regretté, au terme de trois jours de négociations à huis clos dans un hôtel éloigné de Nouméa. Les non-indépendantistes ont refusé la proposition faite par l'État, qui n'était selon eux rien d'autre que l'indépendance, tandis que Manuel Valls a retoqué leur contre-proposition de fédéralisme, un séparatisme de fait pour le ministre, où chacun vivrait de son côté. Juste avant son départ, Manuel Valls s'est adressé aux Calédoniens, leur demandant de garder espoir, tout en disant son inquiétude sur une campagne électorale qui s'annonce délétère. Charlotte Manvie, Nouméa, RFI.
Pour la deuxième fois en deux jours, des frappes de drones ont visé ce jeudi Port-Soudan, à l'est du Soudan, siège provisoire du gouvernement. On visait notamment la principale base navale. L'armée accuse les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Une procédure rare ce matin à l'Assemblée nationale au Sénégal. Les députés examinent une demande de la justice pour renvoyer 5 anciens ministres devant une cour spéciale pour malversation présumée, notamment liée à un fonds anti-Covid. L'opposition dénonce une chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir du président Macky Sall. Le Sénégal, qui se prépare déjà à la grande fête de la Tabaski ou Aïd El-Kébir, c'est dans un mois et la question de l'approvisionnement en moutons est déjà sur la table. Un conseil interministériel a planché sur une batterie de mesures pour faciliter l'acheminement des bêtes et surtout lutter contre le vol de bétail, Juliette Dubois.
Pour la Tabaski, les besoins sont estimés à plus de 800 000 moutons. Près de 580 000 viendront de l'élevage local et environ 250 000 seront importés, notamment du Mali et de la Mauritanie. Pour faciliter leur arrivée, le gouvernement a décidé de supprimer les droits et taxes à l'importation. Sur le plan sécuritaire, les ministères de l'Intérieur et des Forces armées seront mobilisés. Ils assureront la protection des convoyeurs, des axes routiers et des points de vente. Des patrouilles mixtes seront déployées et un système de renseignement communautaire mis en place pour réagir rapidement en cas de vol ou d'abattage clandestin. Le vol de bétail représente une perte de 2 milliards de francs CFA chaque année, selon la FAO. Pour lutter durablement contre ce fléau, un système national d'identification du cheptel est en préparation. Il devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et puis à Dakar, le stade Léopold Sédar Senghor, habituellement utilisé comme point de vente, est en travaux. Les autorités prévoient donc de créer un grand parc à bétail à Diamniadio, en banlieue de Dakar. Tous les points de vente seront aussi équipés d'éclairage pour renforcer la sécurité. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Presque 9h10 à Dakar, 11h10 à Paris, où certains supporters du PSG se remettent à peine de leur nuit blanche, nuit de fête après la victoire des Parisiens hier soir face à Arsenal de Buzyn. Le PSG donc qualifié en finale. Prochain rendez-vous le 31 mai à Munich. Ce sera face à l'Inter Milan. Pour l'heure, priorité santé avec vous, Caroline Paré.